Alors que la nouvelle année se profile, on prend conscience que le temps file à une vitesse qu'il est difficile d'appréhender au présent. Est-ce que c'était mieux avant ou après ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Bienvenue dans CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, c'était mieux après, l'émission qui revient sur les origines des choses. Vous nous écoutez toujours plus nombreux sur Radio G, Fréquence Zik et Spotify et nous en sommes très contents. Ce soir, eh bien, vous verrez que les sujets sont de saison, on s'est posé plein de questions et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Voici le sommaire de la première partie de CMA. Non, ce n'est pas vrai, toutes ces chroniques ne sont pas indigestes. Même si ça gaffe quelquefois, nous avons foi en lui ce soir. Alors c'est qui ? Bonsoir Florian, de quoi nous parles-tu ?
Je vais vous parler du gavage.
Le gavage.
Et oui, puisque je pense qu'à Noël, on a bien mangé.
D'accord.
Voilà, et qu'on va remanger bientôt. Donc c'est l'occasion.
D'accord, tu vas nous gaver.
Tout à fait.
Bon, bah, très bien, on va faire du jeu de loi. Elle est de retour et ça tombe bien car les fêtes sont synonymes de musique. Seront-elles bonnes ? Faut pas croire au Père Noël non plus. Bonsoir Sonia, quelle est ta playlist ce soir ?
Bonsoir à tous, et bien qui dit période de fête dit chant Noël.
Donc on va revisiter
un peu l'histoire des chants, et enfin l'histoire surtout, voilà, quelles sont les stars.
Tu veux la mort du programmateur de Radio G, hein.
C'est ça.
Parce que si jamais tu passes Maria Carré, tu sais qu'il nous fait un AVC direct. Hein.
Non mais il faut bien passer des chants de Noël à un moment donné, on est gavé, ça c'est sûr. Mais pour autant, ils sont bien là,
okay.
Et on va en parler.
Bon, en deuxième partie, de toute façon, le menu de fête continue, puisque nous irons au spectacle avec Olivier, et on se tapera une bonne indigestion avec Mathias. Alors, on retrouvera, bien sûr, tout un programme. Ah oui, on donne envie. On retrouvera, bien sûr, le Graal qui répond à vos questions. Et d'ailleurs, une d'entre elles est « Pourquoi fête-t-on le 1er janvier comme le début de l'année ?»
Ah bah oui,
c'est vrai, hein, à part la durée de l'année qui a une correspondance avec la nature, puisque c'est le temps de la rotation de la Terre autour du Soleil, pourquoi commencer en hiver chez nous, hein? Ce serait plus logique de commencer au début du printemps, où la vie de la nature reprend. Alors, est-ce que vous avez une idée autour de la table du pourquoi on commence le 1er janvier?
Mais c'est partout dans le monde, ça.
Alors non, c'est pas
non,
partout dans le monde,
pas
non.
Partout.
Non,
mais
Occident.
À l'époque, on commençait pas au 1er janvier, c'est qu'on a rajouté des mois.
Alors, quand, à partir du moment où on a... Je vais vous dire quand on a commencé, mais pourquoi on a commencé à faire le 1er janvier? Et puis qui, si vous le savez, bien sûr, mais déjà, qu'est-ce qui pourrait nous faire commencer au 1er janvier et pas le 2 février?
Ils ont fait au pif.
Au pif.
Donc ça n'a rien à voir avec les lunes, ça n'a rien à voir avec la nature.
Pourquoi on a dit que le 1er janvier, on fait la fête, ce serait 1er février?
Pourquoi on fête le 31 décembre?
Pourquoi on dit que c'est le début de l'année? C'est le début de l'année, les semaines commencent le 1er. Ah oui, ça c'est une explication, effectivement.
Voilà ce qu'il fallait comprendre.
Non, mais toutes les semaines commencent à côté à partir du 1er, on dit que c'est le début de l'année, etc. Mais ça aurait pu être très bien le 1er avril. Hein.
Alors... Mais, ah oui, tu veux dire, oui.
D'accord. Je crois qu'Olivier a compris la question.
Pourquoi le premier mois, c'est janvier? C'est ce que tu veux dire.
Pourquoi le calendrier commence le 1er janvier?
C'est
oui,
ça.
Voilà. Oui, ça pourrait être. D'accord, vu comme ça.
Mais les fêtes de Noël ont été très difficiles pour Olivier.
On aurait pu faire une année de mars à.
De mars à mars. Ah bah,
à février.
À février, oui, c'est okay. Ça.
Oui, mais dans ce cas-là, on aurait appelé le mois de mars le mois de janvier, comme ça commençait bien. Le 1er janvier.
Que ça a rapport avec Noël? Il faut que la nouvelle année tombe une semaine après Noël? Non, c'est pas ça.
Ah non, pas du tout.
Non, il y avait peut-être une fête païenne.
Ça y est, on a perdu Sonia, on a perdu Olivier, on a perdu Sonia.
Ça n'a rien à voir ni avec les lunes, ni avec les. Oui, non, c'est pas ça.
Non, du tout.
Il y avait une fête païenne,
c'est pas religieux
ce jour-là.
Ouais. Puis... Non, c'est pas religieux. Alors en fait, ça remonte à César. Vous connaissez César?
Ouais. Oui, César.
46 ans avant la naissance de celui qui a les mêmes initiales que Jacques Chirac. On a les références qu'on peut. Hein. Alors, donc janvier, en fait, ça vient de Janus. Et c'est un dieu à deux têtes. Une vers le futur et une vers le passé. Mmh. Hein, limite, il pourrait être le parrain de l'émission de CMA, parce que c'est tout à fait dans le thème. Okay. C'est le dieu du commencement. Donc logiquement, le 1er janvier, c'est le début de l'année.
D'accord.
Mais sous Charlemagne, donc bien après César, l'année elle commençait le jour de Noël. On commençait le jour de Noël. Donc, et plus tard, elle a même commencé à Pâques. Donc, il y a un petit peu le bordel, le calendrier. On se dit, tiens, déjà, nous, on a un changement d'heure. Déjà, on est complètement déphasé. Bah, dans ces époques-là, c'était bon, allez, maintenant, c'est fini. Ce sera Noël. Maintenant, ce sera Pâques. Donc, gros bordel.
Voilà, en fait, oui. Pâques, c'est plus...
C'est religieux.
C'est plus Pâques que Noël.
Ouais. Mais alors, c'est le pape, justement, qui, en 1622, il va mettre les pieds dans le plat.
Grégoire, non ?
Et je ne sais plus lequel c'est possible. C'était un peu compliqué pour caler les dates religieuses quand on n'arrêtait pas de bouger les choses. Donc, on est revenu au 1er janvier. Et donc, c'est le pape qui a dit ce sera le 1er janvier. Et par contre, c'est une fête païenne, du coup. Mais bon, voilà, c'est le 1er janvier. Alors là, on parle pour les chrétiens, du coup. D'autres religions et même d'autres nations s'organisent différemment. Pour les Chinois, par exemple, oui. C'est entre le 20 janvier et le 18 février. Voilà, ça peut varier, il y a un calcul compliqué.
Le nouvel an chinois.
Alors pour les Tibétains, c'est pire, ça peut être n'importe quand dans l'année. C'est un moment dans l'année. Et ça change d'une année sur l'autre.
Et pour les Mayas.
Donc il faut bien suivre. Ça, faut suivre les abeilles.
Les orthodoxes aussi, hein. C'est pas le 1er janvier. Je crois que l'année commence pas au même moment.
Oui, il y a des décalages pour tout
et
le monde.
Et donc 2022, ça sera pas 2022,
alors en plus.
Un autre chiffre, quoi.
Voilà, c'est ça. Quelle année nous sommes, ça, c'est une autre histoire, quand même, effectivement. Enfin, on verra ça l'année prochaine, hein, si tu veux. D'ici là, on va voir les chroniques de CMA. Dans la nature, c'est manger ou être mangé. Les véganes essayent de faire changer les choses, mais c'est un fait, nous sommes aussi carnivores. Par contre, il y a des traditions qui peuvent couper l'appétit. C'est gaffe, docteur ? C'est ce qu'on va voir avec Florian.
Même si la vis pour du foie gras, ni même de la mousse de canard, si ça atteint un hasard sablé à de la bouillie ou du navet, je crache pas dans la soupe, c'est comme ça, même si les petits plaisirs sont rares. Vaut mieux ça que d'être affamé. Bon, je sais plus bien qu'est-ce que je disais.
Oui, je ne sais plus non plus, mais c'est un jingle, hein, donc... On parle de quoi alors du coup ?
Alors on parle du gavage, et principalement du gavage des canards ou du gavage des oies.
Ouais.
Puisque ce sont les principaux animaux que les humains gavent.
Et pourquoi on gave pas autre chose ? Moi j'ai déjà plein de questions, mais...
Eh ben, parce que j'ai pas trouvé d'autres animaux qu'on gavait, en fait.
D'accord.
Parce que je pense que ça ne fonctionne pas. Si on gave un cheval, je pense que ça ne fonctionne pas.
Bah, je pense qu'on s'en prend une dans la tronche aussi. On a pris des animaux qui étaient gentils aussi. Hein. Parce que gaver un taureau, par exemple, j'oserais pas.
Il y a un historique pourquoi on gave les oiseaux, effectivement. Okay. J'y reviendrai. Mais je vais commencer par une jolie phrase que j'ai trouvée sur le site de l'interprofession du foie gras. Donc, qui est très, très, très...
pro foie gras.
Qui est effectivement pro foie gras et très objective.
Oui.
Donc, je vous la lis. L'essor de l'élevage et du gavage des oies et canards a toujours oscillé entre art culinaire et besoin vital.
Alors, le premier, je suis d'accord. Voilà. Le deuxième, je suis
alors,
pas sûr.
Art culinaire, bon. Alors, d'accord, oui, je pense que ça en fera aussi bondir plus d'un et d'une. Et besoin vital parce que c'était un moyen pour les paysans, en fait, d'avoir de la graisse de d'oie ou de la graisse de canard. C'était un moyen pour les paysans de conserver les aliments. Voilà.
Ils utilisaient le foie gras.
Donc c'est un besoin vital. Ils utilisaient la graisse d'oie ou la graisse de canard, comme on fait encore aujourd'hui, en fait, pour confire, en fait, les aliments.
Et cette graisse-là, elle n'existe pas si on le gaffe pas.
Bah, il y a moins de graisse si tu gaffes pas.
D'accord, ça fait pas gonfler que le foie en fait, ça fait gonfler tout le canard.
Ah bah, ou le gras qui est autour du foie.
D'accord, ah oui.
Aussi. Donc voilà, je voulais commencer par ça.
D'accord, ok. Très, voilà. Ils t'ont payé combien ?
Non, mais je vais un peu les casser après.
Ah, oula.
Ou pas. Donc, je vais revenir sur l'origine du gavage, pourquoi effectivement on gave les oies et les canards aujourd'hui. Ça remonte aux Égyptiens. Qui un jour ont vu que les oiseaux, de façon générale en fait, et les oiseaux migrateurs notamment, se nourrissaient beaucoup plus avant de partir en migration. Donc ils se suralimentaient avant de partir, et ils se sont dit tiens, pourquoi ils font ça ? Eh bien on va faire pareil, on va suralimenter les oies et les canards, et les oiseaux qui mangeaient d'ailleurs, et bien on va voir ce que ça fait. Et donc ils ont commencé à faire ça, et ils ont vu que ça faisait gonfler le foie, en tout cas ça faisait de la graisse, qu'ils pouvaient ensuite consommer. Donc ça part d'une observation, en fait, de quelque chose d'assez naturel sur le processus de vie des oiseaux, en fait, des oiseaux migrateurs. Et donc on a fait ça comme ça.
Donc c'est pas du sud-ouest que ça vient, ça vient
donc,
de l'Égypte.
Ça vient pas du tout du sud-ouest, alors peut-être du sud-ouest de l'Égypte.
C'est ça, ouais, c'est plus loin déjà.
Mais non. Et d'ailleurs on trouve dans certaines tombes ou sépultures égyptiennes des fresques, en fait, ou des bas-reliefs où il y a des scènes de gavage. D'oiseaux. Donc ça remonte à 2500 ans avant Jésus-Christ.
Ouais, quand même.
Donc ensuite, bon, les Égyptiens, il y avait les Grecs qui ont fait la même chose. Les Romains ont fait la même chose. Alors eux, ils donnaient pas. Ils donnaient des figues à manger. Voilà, on se voit.
Mais alors là, ils donnaient à manger ou c'était vraiment le gavage comme on le...
Non, 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 ils gavaient, ils gavaient.
Donc ils entraient un tuyau.
Enfin, ils suralimentaient de façon.
Oui, alors c'est pas la même chose entre
suralimenter.
Voilà, suralimenter pour plusieurs animaux, mais on le fait ça avec les porcs, etc.
Oui, mais c'est avec une intention spécifique.
Avec une intention spécifique,
c'est ça.
Mais on n'est pas dans la souffrance du gavage où on prend l'oie et puis avec le tuyau. Donc les Égyptiens faisaient pas ça encore.
J'ai pas vu les bas-reliefs totalement.
Ils avaient. Ils avaient... Que du coup, ils ne laissaient pas l'animal se nourrir lui-même.
C'est ça.
Ils augmentaient sa prise alimentaire.
Sa dose. Oui, mais l'animal pouvait refuser de manger s'il voulait.
Bah, il forçait comme... Non, non, on est déjà dans...
Ah, on commençait à le forcer dans la bouche.
Moi, quand
dans
j'y un certain étais, forçage, oui. Je me
en
souviens
Égypte.
Que...
D'accord.
D'accord. On demandera à Néfertiti un jour,
ouais.
Quand il viendra nous voir dans l'émission.
Okay.
Donc voilà. Donc à chaque fois, vraiment, on était dans l'intention de gaver quand même de façon... alors manuel à l'époque, forcément. Mais il y avait quand même ce forçage de. Aujourd'hui, je vous donnerai des techniques pour justement.
Gaver.
On améliore un petit peu les choses.
Ça va être sympa, les animations du Nouvel An.
Donc.
Il y avait donc des oies donc en Égypte. C'était un animal.
Oui, alors après, c'était partout. Des oiseaux, en fait.
Oui, c'est pas
alors
forcément
là, c'est,
des oies.
C'est les oiseaux migrateurs. On se rend compte que c'est les oiseaux migrateurs qui font ça et on fait ça avec les oiseaux migrateurs.
Bah, on sait qu'à Rome, il y en avait, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Bah oui.
des oies.
Parce que c'est elles qui ont prévenu
et en
quand il y avait des invasions et tout. C'est
ah
qui,
oui, exact.
Qui gardaient
oui.
Les temples.
D'accord.
Tout, oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, les figues, on met encore un peu de confiture de figue, je crois, ou sur le foie gras. Enfin, on mange en tout cas à Noël aussi le foie gras avec de la figue, non? Vous avez fait
bah, ça oui, enfin, c'est une histoire de goût. C'est pas...
Oui, mais tu vois.
Tu crois que ça viendrait de là?
Bah, je sais pas. Ce serait une autre chronique.
D'accord.
Alors, donc du coup, comment ça... Donc voilà, donc ça, c'est l'origine du gavage. Du gavage. Donc comment ça fonctionne, en fait? C'est un processus qui est naturel, en fait. C'est... Alors aujourd'hui, on donne du maïs hein, aux oies et aux canards.
Mm-hmm.
Donc c'est l'amidon, en fait, qui est dans le maïs, hein, qui est transporté dans le foie pour être transformé en graisse, en fait, pour être stocké. Parce que la seule façon de stocker l'amidon et le glucose, c'est de le mettre en graisse. Avant.
D'où les Romains.
Mais ça marche aussi. Mais ça marche. Ça marche aussi pour nous en fait. C'est le métabolisme naturel en fait du sucre de façon générale.
D'accord.
Qui se transforme en graisse.
Mais il descend jusqu'où le tuyau alors? Il le met. C'est dans l'estomac.
Ah bah ça descend. Ça descend dans l'estomac. Oui.
Bah, oui mais.
Oui, ça descend dans l'estomac.
C'est ça le gavage.
Oui, ça descend dans l'estomac.
D'accord.
Bien bas. Et donc c'est un phénomène naturel qui est réversible si l'animal n'est pas tué.
Ah le foie va dégonfler.
Bah
donc. S'ils arrêtent de gaver.
S'ils arrêtent,
ça, s'ils arrêtent de gaver, le D'accord. corps va reprendre en fait la graisse, va faire le mouvement inverse, et donc l'oiseau va se débarrasser de...
Du coup, c'est pas contre nature, entre guillemets, c'est un processus naturel.
Non, non, non. Okay. Alors par contre, pourquoi ça fait polémique? Parce que ça fait quand même polémique, beaucoup, les assos qui défendent les animaux dénoncent le gavage des canards et des oies. Alors déjà, c'est en contradiction avec les règles de l'Union européenne, en tout cas au moins avec deux principales règles de l'Union européenne. C'est que dans le gavage industriel, en fait, on maintient le canard ou l'oie en cage individuelle.
Pour pas qu'il bouge.
Pendant toute la période du gavage, pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il se dépense, en fait, parce que s'il se dépense, bah, forcément, il va consommer la graisse qu'il a stockée.
D'accord.
Et donc, bah, y en aura moins pour nous. Donc ça, c'est interdit par les règles de l'Union européenne de mettre des animaux en cage individuelle. Donc on le gave deux fois par jour, d'ailleurs, avec une quantité assez importante de maïs. Et puis, ça contrevient aussi aux règles qui sont édictées par une directive qui interdit en fait la souffrance et les dommages inutiles aux animaux.
Mm-hmm.
Donc là, on est dedans parce que quand on met le, alors ça s'appelle un, je sais pas quoi, le truc là,
le tuyau, ouais,
l'embuc, le tuyau, en fait, bah en fait, ça crée des lésions en fait sur l'œsophage
bah oui, deux fois par jour, en
de l'oiseau, deux fois par jour.
Et ils sont pas anesthésiés du coup. C'est...
Ah non non, bah non.
D'accord.
Alors, sur le site de l'interprofession du foie gras, ils vont dire que on habitue le canard ou l'oie à avoir le tuyau pendant un certain temps avant, et donc le jour où on fait ça deux fois par jour,
c'est pas naturel.
Ils souffrent plus. Bon, je pense que ils ont joli.
Heureusement qu'on peut donner, on ne leur demande pas leur avis. Hein.
Beaucoup les choses, voilà. Donc, enfin voilà. Donc, par rapport aux lois de l'Union européenne, c'est plutôt mal vu. Et les éleveurs français, en fait, invoquent l'exception culturelle française.
Ben voyons.
Comme quoi, c'est une tradition. Comme quand on reconnaît en plus la gastronomie française comme patrimoine mondial immatériel de je sais pas quoi, de l'humanité, enfin de truc au niveau mondial. Donc voilà. Et d'ailleurs,
donc
non,
voilà.
Non, mais c'est dans, la conclusion. Dans les lois de l'Union, en fait, il y a tout ça. Et on dit aussi que les pratiques qui existaient déjà, en fait, elles peuvent rester.
Donc bon, comme le corrida et tout ça, quoi.
C'est ça, c'est un peu tangent. Alors nous, la France n'a pas interdit le gavage des oies, ni la vente et la vente du foie gras, puisqu'elle est quand même le premier producteur de foie gras au monde, avec 20 000 tonnes de foie gras.
Ah, quand même.
Tous les ans. Eh oui.
Ah oui.
Mais d'autres pays ont interdit le foie gras. La Californie depuis 2012, l'Inde depuis 2014, Sao Paulo, la ville, a interdit le foie gras. Donc la vente, la consommation, l'importation de foie gras en 2015. New York interdira le foie gras normalement à partir de 2022.
Ah d'accord.
Et même la Pologne, en 1999, a interdit aussi, a interdit et a fermé tous ses élevages de d'oies. En fait.
Tu m'étonnes qu'on ait les premiers producteurs, il n'y a plus que nous de toute façon. Donc,
Et d'autres pays, bon, il reste certains pays qui autorisent encore, mais ouais. En Europe. Voilà, il existe des alternatives aussi au gavage.
Alors, bon, ça s'appelle McDonald's.
Oui, si tu veux. Les alternatives. Donc en fait, c'est finalement revenir un peu à l'origine de ce qu'on avait observé sur la suralimentation de l'oiseau avant de partir en migration. Donc là, l'idée, c'est de laisser l'animal se nourrir librement, en semi-liberté, et de donner des quantités minimes à chaque fois, et en fait compter sur la gourmandise de l'animal, qui va se dire, oh là là, si je mange pas tout maintenant, finalement, il y en aura peut-être plus après.
Ah oui.
Donc le fait de donner des petites quantités à chaque fois, l'animal va tout manger, et de répéter ça plusieurs fois.
D'accord. Alors,
en fait, on va inciter l'animal.
À mon avis, c'est moins rapide que
à manger beaucoup
que
plus.
Le gavage. Hein.
C'est effectivement moins rapide.
Déjà que c'est très très cher le foie gras.
Ça peut faire des foies
avec cette méthode-là.
Des foies moins gros aussi. Ouais. Moins et le prix est plus cher. Voilà.
Tu m'étonnes.
Forcément. Mais en tout cas, c'est une technique. Ça commence à arriver dans certains élevages. C'est des techniques qui permettent d'éviter le gavage. Le gavage.
Ok.
Voilà.
Très bien.
Et bah c'est tout. Et sinon,
bah c'est très
d'autres
bien,
animaux. Non, bah non, en fait, il n'y a pas d'autres animaux qu'on gave.
Qu'on gave comme ça avec cette, voilà. Cette technique-là.
Et oui.
Très bien, merci Florian. Tiens, justement, en parlant de manger, bah, je vais te proposer une petite chanson, rien que pour toi. Elle est de circonstance, c'est avec Charlie Stylo dans CMA.
Oui, 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 oui. Moi je vais prendre du poids, c'est marqué dans l'agenda. Décembre je me laisse pousser le gras, ouais je transpire Nutella. Là c'est sûr, je rentre plus dans un duvet. Donc mes jeans je t'en parle pas. Moi je vais prendre du poids, dégage avec ton quinoa. Moi je vais me faire péter le foie, je vais peser en livres, c'est clair. Plus qu'un bibliothécaire, maman veillera à ça. Reprends des petites pralines et avec le tagine qui revêt de la poutine. Moi je vais prendre du poids, c'est pour lutter contre le froid. Isolation intra, moi. Tu ne me reconnaîtras pas, un castor, non c'est moi. Dans mes joues il y aura du pain, des pneus, un T3. Mon amour, c'est la guerre. Je te préviens, je ne te laisserai pas le moindre solilesse. Je te démonte, méfie-toi. Touche à mes frites une fois, je te bouffe un œil et un doigt.
Et à table même un chat. Si j'ai faim, bah pourquoi pas. Et la cerise ce sera toi.
Sur mon gâteau ce sera toi.
Non je déconne enfin je crois.
C'est Charlie et Stino. Et Stino, on les avait reçus à Noël dernier dans l'émission. Et donc, on les retrouve sur leur chaîne YouTube. Vous êtes dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses, en se demandant si c'était mieux après. Eh bien, maintenant, on va souffrir un peu des oreilles. Voici la chronique de Sonia.
Joyeux Noël,
le allez, Sonia, c'est
allez.
Toi.
Tu l'avais pas, celle-ci. Hein.
Ah, on l'avait pas, celle-là.
C'était le fils du Père Noël, j'étais la fille du Père Fouettard, elle s'appelait Martin Noël, je m'appelais Clara Balthazar.
Eh bien oui, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé donc un joyeux Noël. Eh bien donc en cette période de fête, quoi de plus normal et de circonstance hein, que d'évoquer les chants de Noël. Hein, qu'ils soient traditionnels ou bien encore plus modernes, en anglais, en français, les chants de Noël enchantent les fêtes de fin d'année, ou pas. C'est selon.
Dans les rues, on aura le bol.
C'est ça, on entend ça partout, ding ding ding, des petites clochettes. Hein. Voilà, enfin bon, c'est bien connu, hein, tous les ans à l'approche de la fin d'année, des artistes abattent la carte chanson de Noël. Et cette année, saurez-vous retrouver quel duo s'est lancé dans l'aventure ?
Ah bah on sait. Ah.
Alors, est-ce que ça vous parle ?
Moi, j'ai vu le clip.
Ah ouais ?
Alors, de qui il s'agit ?
Je comprends pas parce que j'ai cru entendre Elton John, mais il chante plus, Elton
si.
John.
C'est lui ?
Si.
Elton John.
C'est une nouvelle chanson d'Elton John ?
Oui. Mais il est pas tout seul.
Ah, il est
en
seul.
Duo. Il en chante duo. En duo. Est-ce que vous avez reconnu,
ah
peut-être ?
Ah ouais, non, pas sur la...
Olivier,
ça commence par la même lettre,
ça
commence par un E.
Un E
son
également.
Prénom.
Édouard.
Bien, ça commence les deux premières lettres. Ed Sheeran.
Oui, c'est ça. Eh bien, effectivement, c'est ça. Le duo de copains a sorti début
deux mots
décembre.
Chansons, c'est bien.
Merry Christmas, un titre évocateur hein, qui va parler d'amour. Ah. Il invite à profiter de la parenthèse de Noël pour laisser de côté les soucis et, bien sûr, de circonstances, les difficultés liées à la crise sanitaire. Alors, il s'agissait donc d'Ed Sheeran et d'Elton John. Hein, et donc, les fonds de ces chansons iront chacun à leur fondation. Voilà.
Oui,
alors,
contrairement à Maria
Carré.
Contrairement à Maria Carré.
Alors,
ah oui, bah non,
tu as tout pris.
Justement, moi, maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit pot-pourri des titres, je dirais, les plus plébiscités qu'on va retrouver sur les sites de streaming. Je vous propose une petite écoute.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we.
Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
Beau sapin, roi des forêts.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need.
What I want for Christmas is you.
Dans le studio.
Sauf le programmateur de Radio G.
Alors, un petit tour des différents titres.
Alors, on se le refait et puis on le dit ensemble. Alors, le premier. Wham, Last Christmas.
George Michael.
Ouais. Avec George Michael, effectivement.
Alors, celui-là. c'est un Américain.
C'est un Américain.
Alors moi je connaissais pas le nom, mais Bing Crosby.
Ah Crosby,
oui.
Si.
Avec ouais. We Wish You a Merry Christmas.
Ok. La numéro 6.
L'incontournable.
Tout quand j'étais petit. Ah oui.
Let
let it snow, let it snow, let it snow.
My cheeks.
Frank Sinatra.
Frank Sinatra.
Ah, avec oui, Snow. Sinatra.
Time nice and rosy and comfy, cozy are we.
C'est vieux, ça.
Alors là, c'est, la chanson, c'est Sleigh Ride, mais j'ai pas forcément qui chante, en fait. C'est un groupe
c'est,
de
d'accord.
Nana, mais je trouvais ça sympa, le côté
c'est
un
c'est vrai,
peu,
américain. C'est vrai, ouais, c'est sympa.
Les L5.
Les L5.
Les L5.
Vive le vent, vive le vent d'hiver.
Ah, Mireille.
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 Je sais pas. Non plus, je ne sais pas.
Alors, quand même, cette chanson, est-ce que vous savez? Parce que c'est une, quand même une chanson incontournable et surtout indétrônable. L'indétrônable de Noël, et ça depuis...
15 ans?
Oh oui, ça fait longtemps.
Depuis...
Oh oui.
Je sais pas, 2000, 20 ans?
Dans,
20
ans
en 2000,
21,
encore avant?
25 ans.
Non.
25 ans,
voilà, 25
effectivement.
Ans.
Hein, cette chanson, elle est sortie en 94.
94.
Ah, dis donc.
Cette chanson, elle est sortie en 94. All I want for Christmas
is you,
hein, de Mariah Carey. La chanson, quand même, a dépassé le record d'un milliard de streaming sur la plateforme Spotify. Et donc, elle se classe comme la première des top 100 des meilleures chansons de Noël de tous les temps. De tous les temps, les amis.
Peut-être à la retraite.
Mais elle vient de le ressortir. Hein, ouais, avec
oui,
Justin
mais systématiquement, là, ça fait encore des millions d'écoutes mais, là, sur
ouais.
les plateformes.
Bah, parce que c'est avec Justin Bieber, elle a refait un duo et c'est la même chanson avec Justin Bieber, mais
ah oui, bah,
c'est
elle
la
a agrémenté, elle fait des petits remixes. Et donc, j'en viens à...
Nos chansons.
À vos chansons, à vous, chers amis. Mais quels sont vos titres préférés de ces périodes de fête, alors? Éventuellement, ceux qui m'ont répondu, on peut faire un petit...
Ah, on essaye déjà.
On essaye
alors,
déjà.
Alors, qui aurait répondu?
Qui aurait répondu, ça. C'est ça.
C'est un petit dans le
dessous. Oui, c'est vrai.
Et comment le Père Noël pour une visite au monde entier?
Bah, c'est simple, parce que chez les riches.
Eh bien, il s'agit de Cyprien.
Eh ouais,
c'est, hein, c'est le youtubeur, c'est ça?
Ouais.
Oui.
Parce que, je suis pas très calé question youtubeur.
Bon, c'est
mais...
des parodies. Hein.
Cyprien.
Mais j'aime bien cette chanson.
Ensuite, alors... nous avons.
Père Noël est enrhumé. Préparons-lui.
Il y aurait eu Raphaël. Oui, j'aurais aussi, non, ça, j'aurais ouais. dû Raphaël hein, si c'était
quelqu'un
d'ici.
Oui,
mais c'est quelqu'un d'ici? Présent autour de cette table?
Non, pas présent autour de cette table, mais il aurait dû être présent autour de cette
table.
Ah,
d'accord. Bah, c'est Jérémy.
Jérémy,
alors?
Jérémy, alors. On lui fait un petit coucou.
Bah oui, il est qu'à contact, le petit pépère.
Et donc, avec son petit fiston, il chante la chanson du Père Noël est enrhumé.
Oh, c'est tout Jérémy. Mignon. Et dernier.
Ah.
Qui c'est qui chante? Il y en a un qui danse. Ah, il y avait
ah,
un.
Ah oui, j'avais mis un petit piège, mais c'est
ah,
pas
d'accord,
grave.
Ok. Bon, de bon, toute façon, il l'aurait trouvé tout de suite, hein, je pense.
Oui, mais il n'y avait pas les paroles, justement.
Ah, ah. Alors, ça, c'est.
Eh bien, on retombe sur.
Je pense que c'est Olivier, hein, je pense.
Yes, George Michael avec Last Christmas. Et donc, toi.
Alors, ah,
alors
toi, c'est Florian.
Florian.
Alors, moi, j'ai une chanson dans la tête à chaque fois quand c'est Noël, en fait, c'est les chansons qui passent à Disneyland.
Ouais. Nanana,
et donc ça fait, donc le refrain fait, pas le refrain, c'est une phrase, chante, c'est Noël, ta-da-na, ta-ta-ta-ta-ta, voilà.
Et donc ça, c'est ta chanson de Noël où tout tu te sens bien dès que tu l'entends.
Je connais
Noël.
Pas la suite, hein, mais oui.
D'accord.
Faut que tu retournes à Disneyland.
C'est un peu dans la Mickey Dance, tout ça, enfin, c'est pendant la parade, en fait.
Bon, je pense que ça va être un truc de métal pour toi, Noël.
Noël, Noël, Noël.
Non, même pas, beaucoup plus doux.
Hein toi, Florian.
Moi, c'est Noël ensemble.
Ah non, c'est vrai, ah, oui. Je suis
Noël ensemble.
Noël ensemble.
Ah oui, c'est, voilà. Ils avaient chanté tous ensemble pour Noël, c'est ça?
Voilà,
oui.
Il y avait une chorale qui avait chanté dans l'émission.
Noël.
J'ai été marqué par cette chanson.
Oh, d'accord.
Et les chœurs, et les échos, les canons, et ouais. Tout.
Okay.
Un grand
et
moment de
année,
radio.
Et tous mes clair, collègues de boulot, petite pensée pour eux, je leur chante Noël ensemble depuis le 1er novembre déjà.
Depuis le 1er novembre.
Donc,
oh,
passé Halloween, ça y est, on était Noël, Noël ensemble.
Ah, c'est dur, c'est dur.
Bon, moi pour ma part, oui. C'est l'incontournable Tino Rossi. Je crois qu'à chaque fois que je l'entends, ça me fait des frissons. Je pense que je me revois petite à écouter cette chanson à l'école. Et ça me fait plein d'émotions. Donc voilà, c'était Tino Rossi.
Bah oui, moi. Petit papa Noël. Bon. Eh ben, c'est très bien, tant mieux, on a tous passé de toute façon un excellent Noël, hein. C'est bien passé, tout le monde, bah, c'est
oui,
parfait.
Bon, oui.
Maintenant c'est le nouvel an, il va falloir se préparer. Merci Sonia. En début d'émission, je vous parlais des origines du 1er janvier et j'étais revenu sur la signification du mois de novembre, de janvier, pardon. Mais il y a 12 mois, donc 12 origines de noms, j'ai du mal ce soir, hein, mais c'est Noël. Hein. C'est à cela que s'attelle maintenant le Graal et tout cela, évidemment, en une minute.
Question d'Élise Dallone. D'où viennent les noms des mois ?
De toi à moi, Élise, c'est une bonne question. Enfin, 12 bonnes questions. On commence par le mois de mars. C'est le commencement de la saison de la guerre. Bon, qui dit guerre, dit mars, hein, dieu de la guerre. Février vient de februare, qui veut dire purifier. Avril, c'est aprilis, l'ouverture des fleurs. Mai, c'est en l'honneur de Maya, pas l'abeille, hein, mais la déesse. Juin, de Junon, la femme de Jupiter. Juillet, c'est pour César. Août, c'est l'empereur Auguste. Septembre, septième mois du calendrier de l'époque. Pas con. Octobre, huitième mois, repas con. Novembre, neuvième, oui, vous avez compris, pour décembre. Jules César, 46 ans avant ses initiales, décide alors qu'en fait, l'année commencera en janvier, car c'était le mois où les magistrats prenaient leurs fonctions. Janvier vient de Janus, le dieu symbolique du changement. Alors, ben voilà, c'était le Graal. Si vous aussi, vous voulez poser une question, même totalement loufoque ou décalée, bien rendez-vous sur le site radio-g.fr, rubrique Contact. Nous aurons pour mission d'y répondre en une minute sur le compte Question Graal d'Instagram et Facebook. Dans la deuxième partie de SEMA, nous parlerons de chocolat et d'amour. Alors, restez bien avec nous et en attendant, on va jouer un peu. Dans quelques jours, on fêtera le Nouvel An, l'occasion pour nous de pousser les meubles de la maison et de danser sur une playlist. Alors, je me suis demandé quelles avaient été les musiques les plus écoutées entre 23h50 et minuit 10 au Nouvel An de l'année dernière. Eh bien, miracle de la technologie, avec les plateformes comme Deezer et Spotify, nous le savons.
Yes.
Et donc, on va faire un petit blind test. À vous de trouver eh bien, les titres et les interprètes. Alors, des fois, c'est un peu compliqué. La chanson la plus écoutée en streaming à minuit, le 1er janvier 2021, c'était ça.
Que tu prends la KO, c'est Marseille bébé, ça me rend c'est dédé, wesh alors ma race, tranquille.
Je pense qu'on avait déjà beaucoup bu à ce moment-là. Est-ce que vous connaissez un peu? Je ne connaissais pas, moi.
La Ju, dans les rappeurs.
Alors, c'est un collectif, en fait, c'est un collectif de rappeurs marseillais qui s'appelle Très Organisé. Et le titre, c'est Bande Organisée. Voilà. Donc, c'est une chanson d'août 2020. Bon, c'est apparemment la plus écoutée à ce moment-là. En deuxième position des titres de Nouvel An de l'année dernière, on a ça.
Ah, ça, c'est le week-end.
Ah,
bien. Mais je crois qu'elle ressortait dans les pubs de 2019 ou 2020.
Ah oui, ça. Oui, bon, en tout cas, c'est la plus écoutée en 2020. Effectivement, toute l'année 2020, donc évidemment, c'est logique que Blind Time Light du Canadien The Weeknd ressorte à ce moment-là. Troisième place avec une chanson de 2009.
Black Eyed Peas.
I got the feeling.
Ça donne envie de danser, ça.
Bah oui,
ça,
forcément. Bon, les amis, on a envie de danser. Oui. Là, au niveau piano, je peux le faire, je pense. Ah, ça fait le rythme, après le rythme. Bon, ça commence quand ?
I got a feeling that tonight's gonna be a good night.
Alors, pour la suite du classement des musiques les plus écoutées sur Deezer au Nouvel An de l'année dernière, je vous ai épargné Angèle, Dua Lipa et Section d'Assaut, mais dans le top 10, on trouve des chansons qui nous font dire que le temps d'avant, eh ben, c'est toujours bien aujourd'hui, avec des titres qui fleurent bon les années 80-90. Alors pareil, hein, chez vous ou ici autour de la table, vous allez chercher, essayer de trouver les titres. Voici le premier, toujours au top, dans les soirées de Nouvel An. Il date pourtant de 1985.
Oh, c'est bon, ça.
Ah, ça bouge dans tous les sens, ça.
Partenaire particulier.
C'est ça. Avec le titre.
Partenaire particulier.
Voilà, c'est le même titre. C'est le même nom. Eh ben, suivant 10 heures, c'est ce qui a été écouté.
Bourré, là.
Ouais, je pense que c'est. Bah, il est minuit, hein. C'est à minuit qu'on fait ça, effectivement. Voilà, bon. Autre titre à succès, français lui aussi, cette fois-ci de 1995, et pareil, écouté à minuit l'année dernière.
Hein. Ah non.
Chez moi, le fond se balance et les toits grattent le ciel.
À vous voir vous déhancher, c'est vraiment ça. Hein.
Vas-y.
nous sont à nos portes et tous les enfants les comprennent.
Et enfin, une valeur indémodable passée par la case du ringard, ce titre est diffusé de génération en génération pour des soirées décomplexées. Et c'est dans le top 10 des chansons les plus écoutées à minuit au Nouvel An, selon Deezer. À minuit, c'est les...
Oui,
forcément. C'est l'image. Il n'y avait pas Émile avant parce qu'il faisait autre chose, mais c'est, ça date de quelle année?
80...
Ah,
ouais, 82 peut-être.
88.
Non, 87. Non,
87.
Ouais, c'était pas loin quand même. Hein. Alors, est-ce que c'était mieux avant ou après? On tamise l'ambiance, on branche les jeux de lumière et on choisit la chanson du jour. Alors, qu'est-ce que vous voulez écouter? Bande organisée, The Weeknd, Black Eyed Peas, partenaire particulier, Céline Dion ou Image?
Image.
Ah, alors j'ai un partenaire et un Image. Les garçons, qu'est-ce que vous voulez? Dans tout ce qu'on a entendu là. Bande organisée, The Weeknd, Black Eyed Peas, partenaire... Oh non! Céline ou Image?
Tu nous départages.
Alors, départage.
Image.
Voilà, bon, Image.
Image? Eh ben, on part sur Image alors.
C'est une chanson de Noël.
Eh bien, c'était Image avec les démons de minuit, effectivement, la chanson la plus écoutée l'année dernière sur Deezer entre à minuit. Enfin, voilà. Bon, ben, c'est comme ça. Ça nous rappelle un petit peu notre jeunesse ou la jeunesse que certains. Ça, vous étiez pas, t'étais pas né, toi?
Non,
Mathias,
moi, j'étais pas né.
Ah bah.
Pas du tout.
Allez, vous êtes toujours dans CMA. C'était mieux après, l'émission qui revient sur les origines des choses. Vous nous écoutez en FM sur Radio G 101.5 FM ou sur le net avec Fréquence Zik. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast hein, sur le site radio-g.fr, émission CMA. Ou sur Spotify. Allez, voici le sommaire de la deuxième partie. Lui, il a tiré la fève. Il fait tout pour avoir des tablettes. C'est Mathias. Bonsoir. De quoi nous parleras-tu?
Du cacao.
Et comment... J'ai eu peur, ouais. J'ai eu un flash.
L'origine du caca, du cacao.
D'accord, le cacao. Mmh. Ok. On parlait de Rome en début d'émission. Eh bien, si Rome est haut, Juliette n'est pas loin. Ni même le jeu de mots foireux d'une présentation capillocratée. Bonsoir, Olivier. De quoi nous parleras-tu?
Il est là.
Il est dépité.
Non, je vais vous parler de plutôt West Side Story.
Ah, c'est West Side Story?
Yes. Bah oui, avant tout.
D'accord. Mais c'est
Romeo
et Juliette.
Rapport aussi avec Romeo et Juliette.
Forcément, évidemment. Hein. Sympa cette deuxième partie. En tout cas, on découvrira aussi la chronique gagnante de la précédente émission. Ta-da-da, suspense. Alors, on y va tout de suite pour la deuxième partie de CMA. Il aime les noirs avec des tablettes. Il est vrai qu'ils ont souvent plus de goût que les blancs qui, eux, sont plus doux. Ça va être du gâteau, cette chronique avec Mathias, notre petit mousse.
Je sais pas comment enchaîner avec une présentation pareille. Écoute,
tu vois ce que tu veux. Hein.
Alors du coup, au départ, le cacaoyer pousse au fond de l'Amazonie. Pour la petite info.
Ok, ce qui est l'Amazonie,
en Amérique centrale. Ces fruits sont des cabosses, en fait, c'est des gros fruits ovales où sont renfermés plein de fèves dans un espèce de lait.
C'est alors, des cabosses, tu veux dire, c'est quoi? C'est une noix de coco?
C'est le fruit. C'est le fruit, en fait, qui est assez allongé, qui est une cabosse, et au début, il est vert, il se teinte au fur et à mesure jaune, marron, orange, enfin. Et en fait, c'est à l'intérieur où ça renferme toutes les fèves de cacao.
Et tout ce qui est autour se mange pas?
Non, l'espèce de peau, en fait, c'est un peu laiteux, hein. c'est des graines, en fait, les fèves, disons.
D'accord.
C'est vraiment pas...
Donc on jette carrément toute la cabosse, tout ça, et on garde que les graines.
À ma connaissance, après.
D'accord.
Ça se trouve, j'ai pas cherché plus que ça, j'ai vu que c'était comme ça. Et du coup, c'est pas très sucré, c'est très acide, c'est pas très, très ragoûtant.
Ah bon?
Non. À état brut, c'est pas sexy. Et c'est la civilisation Toltec qui est la première à cultiver, en fait, le cacaoyer. Et ils en font ce qu'ils appellent l'arbre des dieux. C'était entre 1200 et 1500 après Jésus-Christ.
Mais si c'était pas bon, pourquoi ils l'ont fait?
Parce qu'ils pensaient qu'en fait ça avait des vertus énergétiques. Il y a une molécule en fait amère dont j'ai pas retenu le nom parce que c'est assez scientifique. Hein, mais ils pensaient que c'était énergétique et qu'en plus c'était vraiment, ça les rapprochait des dieux. Que c'était vraiment quelque chose de sacré. Et du coup, ils en ont fait une boisson qui était épicée mousseuse et ils pensaient que
le cacolac.
Oui, le xocolalt. Ah, xocolalt, c'est presque
ah, c'est
ça.
Pas,
ouais.
C'est
ouais.
pas loin. Hein.
Mais j'ai rigolé, plusieurs fois. Et, le xocolalt, et en fait, plus il faisait de mousse et plus il avait l'impression d'être proche des dieux. Enfin, voilà. Il y avait vraiment tout un mythe autour de ça.
Pour ça, tu te protèges beaucoup de dieux avec la bière, toi.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très proche de dieux. Et du coup, bon, voilà. Ils utilisaient aussi ça comme une monnaie. Par exemple, un lapin, ça valait 10 fèves.
Ah oui, d'accord.
C'était une monnaie d'échange.
10 fèves de cacao.
Oui, 10 fèves de cacao. Et ils pouvaient aussi payer leurs impôts avec ça, les esclaves et compagnie. Enfin, voilà. C'était vraiment une monnaie de transaction.
C'est une idée pour payer les impôts.
Ne faites pas ça aujourd'hui. Elle n'allait pas au fisc avec des tablettes de chocolat. Hein.
Ça ne marchera pas.
Ça marchera pas. Je ne pense pas que ça marche très bien. Et en fait, c'est en 1519 que Cortés, explorateur espagnol, en expédie à Charles Quint. Mm-hmm. Qui était le roi d'Espagne, mais en Europe, en fait, c'était pas très bon, c'était quand même très amer.
Ouais.
C'était pas foufou. Et c'est un jour, en fait, des moines espagnols qui ont eu l'idée de remplacer l'eau par du lait et de mettre du miel dedans pour adoucir l'amertume. Et ça fait le premier chocolat chaud, d'accord. En fait, entre guillemets.
Mais alors, du coup, les graines, elles sont torréfiées ou
Elles sont torréfiées, ouais.
D'accord, donc il y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée qu'il fallait quand même les griller pour que ça marche, quoi.
Ah, ouais.
Parce que naturel, c'était pas bon.
J'ai pas trouvé comment que ça en était venu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur le cacao. Ouais. Ça a été très compliqué de démêler.
Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, voilà, naturel, c'est pas bon, on va essayer de les cuire et apparemment, c'était meilleur. Un peu comme le café, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Du coup, la boisson, elle arrive en 1615 en France et elle devient très vite populaire. Ça fait fureur, ce breuvage au cacao.
Ça devait être super cher, parce que ça venait de loin, quand même.
Je pense que ça devait être super cher.
C'était juste
j'ai
pour
pas
les rois,
vu de données pour ça, mais effectivement, je pense que ça devait être très cher. De toute façon, les seules traces qu'on a, c'est dans la royauté.
Oui,
ou,
c'est ça.
Voilà.
Je pense que c'était pas le...
Et c'était réservé à l'élite.
Oui, je pense.
Le bas peuple ne buvait pas de chocolat chaud.
Non, je pense pas. Et en fait, c'est...
C'était le caviar de l'époque.
C'est ça.
C'est David Chailloux qui a été le premier chocolatier français de Paris. Il a été désigné, en fait, pour transformer... cette fève de cacao à en faire vraiment un dessert, une tablette de chocolat du coup comme
d'accord.
On connaît aujourd'hui.
Sacré David.
Sacré David. Tout ça pour finir à la caquetterie. Super. Mon Dieu.
Rapidement, toutes les capitales d'Europe furent conquises au point où l'Angleterre plante des cacaotiers dans les colonies en Afrique, tout ça. Enfin, ça prend une proportion, une fureur.
Ah, parce que c'est vraiment qu'à ce niveau-là de l'équateur, en fait. En France, ça pousserait pas beaucoup.
Il faut vraiment beaucoup, beaucoup de soleil, une terre très fertile.
C'était les pays qui avaient des colonies, et surtout qui pouvaient faire pousser, quoi.
Ouais, mais regarde. Le chocolat viennois, ils n'ont pas de colonie ici.
Mais il faut importer, ils l'importent.
Je ne sais pas, non. Mince, ça les a.
Bah non, ils ne le font pas pousser.
Ils ne le font pas pousser, ils l'importent.
Pourquoi tu parles chocolat viennois
Non, mais c'est, je ne sais pas, de quand ça date.
Le chocolat viennois
De l'Empire austro.
Non, mais il y a le cacao d'un côté,
oui,
et
c'est
le
ça.
Chocolat,
ouais.
Qui n'est pas du tout la même chose. Parce que les Suisses, il n'y a pas de cacao qui est en Suisse.
Donc là, c'est plus les fèves et le chocolat, quoi, le début, ouais.
Et bien, du coup, justement, j'allais y venir parce qu'en fait, on était. La France était le pays qui avait le monopole du chocolat, vraiment.
Ah oui.
Jusqu'à la Révolution, où là, on a eu autre chose à faire que de manger du chocolat, clairement.
Oui.
Et c'est la Suisse qui, eux, étaient à l'abri de tout ça, qui se sont vraiment développés dans le chocolat, qui sont devenus vraiment les rois du chocolat qu'on connaît aujourd'hui.
La Belgique aussi,
et
un peu,
Belges,
non oui, les Belges, chocolat belge, connu aussi, non
le meilleur
c'est
chocolat,
vraiment
c'est
la Belges. Suisse qui a été.
Ah, c'est plus la Suisse.
Peut-être que la Belge ont rattrapé derrière, mais ouais. Bon, après, il y a des débats à ce sujet, mais c'était la Suisse à l'époque, en tout cas,
d'accord.
qui est devenu maître du chocolat. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, ils sont surtout maître du chocolat au lait.
Ah d'accord. Bah les Suisses, oui. Parce que le lait, là-bas,
ils en ont.
Ouais. Ils en ont.
Ils ont des vaches.
Oui, oui. Nous, on est très consommateurs de chocolat noir.
Ouais.
Et chez eux, non.
Moi, j'aime moins. C'est plus amer. Je préfère le lait.
Apparemment, enfin...
On préfère les noirs, d'accord.
On préfère les noirs. Oh. Pourquoi ça a disparu?
Tu préfères les noirs, Mathias?
C'est son téléphone, alors le texte, ça a disparu.
Oui. Ta.
Sachant que le chocolat blanc, c'est pas forcément du chocolat d'ailleurs.
Non, non. C'est du.
Je crois qu'il n'y a pas de chocolat dedans.
Il enfin, y a
pas de cacao.
Il y a le lait de coco.
C'est de la graisse.
Il y a
de
le beurre de cacao.
Et sinon, vous voulez faire ma chronique à ma place?
Non, vas-y,
je vous laisse.
Ok. Vas-y, on t'écoute.
Du coup, j'allais vous demander justement, déjà, à votre avis, quelle est la consommation mondiale de chocolat par an?
Mondial.
Bah,
c'est en
mondial en France.
Pas, centaines de milliers.
En tonnes ou en tonnes par habitant.
C'est par habitant.
En tonnes.
En tonnes, oui, donc c'est pour tout le monde.
En tout.
Je sais pas, voilà, 10 000 tonnes.
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme, vas-y là.
C'est plus de 3 millions de tonnes.
Oui, 3 millions de tonnes, oh, bah oui.
J'ai trouvé un site où il y a un compteur qui met le nombre total depuis le début d'année et le nombre total qui est en train de s'écouler le temps où on est sur la page. Et vraiment, les chiffres, ils tournent.
Il y a toujours des gens qui bouffent du chocolat.
Oui, c'est
tout
hallucinant.
Le temps, tout le temps.
Et qui c'est qui mange le plus de chocolat?
C'est une très bonne question.
Dans les, je sais pas, un pays, peut-être les Français, je sais pas.
Du coup, est-ce que vous connaissez les différents types de chocolat?
Donc forcément, le noir, on a dit, le blanc,
le noir, le
lait.
Blanc, le lait.
Alors après, il y en a au CBD, hein, j'ai vu.
J'ai découvert d'autres variétés de chocolat. Parce qu'en fait, le chocolat transformé, genre avec du CBD, c'est pas une variété de chocolat.
Oui, c'est ça.
C'est
voilà,
un chocolat amélioré avec un autre ingrédient.
Le cacao, quoi.
Oui. Là, du coup, j'ai découvert qu'il y avait le chocolat blond, par exemple.
Blond.
Alors, le blond... Bon, j'étais un peu déçu parce que j'étais super content de trouver ça. Je me suis dit, oh génial, il y a un autre chocolat. Bon, c'est du chocolat blanc, en fait, cuit au bain-marie et qui est légèrement caramélisé. Mais apparemment, ça change vraiment le goût du chocolat. C'est vraiment, ça rentre pas dans les trois catégories de chocolat qu'on connaît d'habitude.
D'accord.
Et il y avait le chocolat rose. Je pense qu'on a tous un peu entendu parler de ce chocolat-là.
C'est Nestlé qui a sorti ça aussi. Oui, il paraît que c'est très cher, hein, le chocolat rose.
Bah, ça peut être très cher, effectivement, parce qu'au début, je pensais que c'était un chocolat transformé avec un arôme ou quelque chose. Et non, c'est vraiment une variété de cacao. C'est vraiment
j'ai pas trouvé le goût différent, mais
ce que je préfère le plus, c'est les chocolats orange.
Avec
à Pâques, en fait, on a des fritures en chocolat, des petits poissons.
Ouais.
Il y a avec de l'orange. Et souvent, il y a noir, au lait, il y a les blonds, et puis il y a ceux qui sont orange.
Oui, mais orange, ils mettent de l'orange dedans.
Oui, c'est pas une.
C'est chocolat blanc.
Mais chocolat à l'orange, ça se fait beaucoup aussi, mais c'est un peu plus amer, effectivement.
Du coup, ouais, en fait, ce chocolat rose, c'est vraiment une variété de cacao différente qui traite différemment, qui est torréfiée vraiment d'une façon spécifique. C'est très long, apparemment, et très compliqué à faire. Et ça donne ce cacao rubis, ce chocolat rubis.
Je
ne connais pas.
Bon, écoute.
Donc voilà. Alors, comme je suis un chroniqueur super simple.
Il a amené des chocolats.
Bah oui, je me suis dit quand même, j'avais pas vous parler de chocolat.
Ah bah ouais.
Sans ramener des chocolats.
Et c'est vrai que la dernière fois qu'il nous a parlé de cannabis, on n'a rien vu avec Florian.
Le CBD.
Oh là là, du lin d'or.
Il y a de tout.
Il y a
du blanc, du noir.
Ouais. Et ça c'est très très bon. Ça c'est très gentil. Merci Mathias. Allez, les fêtes, c'est le moment des films de Noël, mais aussi des téléfilms produits à la chaîne avec les mêmes histoires d'amour qui dégoulinent de bons sentiments. Pourtant, il est une histoire qui finit mal en étant l'une des plus grandes romances de tous les temps. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Olivier.
Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut.
Oh, c'est beau. Oui, je vais vous parler de West Side Story, qui est sorti le 8 décembre dernier, un film de Steven Spielberg. Donc, moi, je vous invite tous à aller le voir. C'est un film qui est vraiment remarquable. Mais il a été, en fait, c'est un remake, hein, parce qu'il y a déjà eu un West Side Story qui a été tourné il y a 50 ans, en 1961. Qui était réalisé par Robert Wise avec une musique de Leonard Bernstein. Le film avait remporté 10 Oscars. Wow. Ça a été la comédie musicale qui a remporté le plus d'Oscars depuis la création des Oscars. Un film avec Natalie Wood, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Ouais.
Voilà, un film culte.
Il est repassé il n'y a pas longtemps, là, à la télé.
Oui, c'est vrai. Donc l'histoire, on est à New York dans les années 50 et il y a deux gangs rivaux qui s'affrontent. Alors d'un côté, il y a les Jets, qui sont des Américains plutôt d'origine polonaise, italienne, irlandaise, donc des Blancs. Et puis de l'autre côté, il y a les Sharks, qui sont en fait des immigrés portoricains. Et puis donc il y a Tony, qui est l'ex-chef des Jets, et qui tombe amoureux de Maria, qui est la sœur du chef des Sharks. Donc bien sûr, un amour impossible voilà, entre deux figures de deux gangs rivaux. Donc vont-ils s'aimer? Là est la question. ça vous rappelle rien ce truc-là quand même?
Bah si, voilà, d'où le générique.
Oui, bah, en fait le West Side Story s'inspire directement de Roméo et Juliette de Shakespeare. William Shakespeare qui avait écrit cette pièce en 1595. Alors l'histoire a été un peu remaniée. Alors
on a toujours cette fameuse scène du balcon. Alors, sauf que le balcon, en fait, c'est, maintenant, ce n'est plus un balcon, c'est des escaliers, vous savez, des escaliers de secours de New York. Mmh. Donc, il y a une superbe scène de déclaration d'amour sur, dans l'escalier de secours. Hein. Je vous laisserai voir le film, aller voir le film ou le voir en DVD. Et puis, West Side Story, c'est aussi réapproprier un peu Roméo et Juliette. Il y a quand même des personnages qui ont été supprimés. On ne voit plus Mercutio, par exemple. Et aussi, il a modifié la fin. Donc, alors, je ne sais pas, vous dévoiler, je sais pas vous dévoiler la fin. Mais bon, la fin est quand même modifiée.
C'est triste aussi, ça fait...
Je ne dis pas.
On ne dit pas, d'accord.
Alors, je peux quand même vous parler de Roméo et Juliette à l'origine.
Oui. Hein,
Roméo et Juliette à l'origine. On est situé à Vérone, donc en Italie. Et donc là, on suit la rivalité entre les...
Capulet.
Bravo, et les...
Et les Montaigu.
Là où tu étais il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Les Capulet et les Montaigu. alors, il y a eu moult
versions.
Films, versions, ouais. qui ont pris ça. Il y a eu beaucoup de compositeurs, que ce soit Berlioz, Prokofiev,
oui.
Et puis aussi Tchaïkovski, hein, Roméo et Juliette. On a eu aussi des opéras, bien sûr. On a aussi eu beaucoup de films. Alors, moi, je pense surtout aux films de Baz Luhrmann, qui a notamment tourné Moulin Rouge. Avant Moulin Rouge, il y avait...
Leonardo DiCaprio, c'est ça ?
Et même avant Titanic, effectivement, il y a eu Leonardo DiCaprio, voilà, qui est un de mes films que j'ai adoré, vraiment. Et il avait repris exactement le texte de William Shakespeare, donc c'est filmé en vers.
Ah, en plus.
Donc c'est assez impressionnant. Et tout ça tourné à Verona Beach, donc en Californie. Mm-hmm. C'est vraiment une adaptation qui respecte vraiment scrupuleusement le texte de William Shakespeare.
Shakespeare. C'est la version hard.
Mais William Shakespeare, ce qu'il faut savoir, c'est que lui-même, il s'est inspiré de quelque chose.
Ah,
et voilà.
Jackie et Michel.
William Shakespeare, eh bien, il s'est inspiré. Il s'est inspiré de Jackie et Michel. Il s'est inspiré d'un mythe grec.
Ah,
voilà. Et donc, c'est le mythe de Pyram et Thisbé.
Oui, forcément.
Voilà, Pyram et Thisbé qui est raconté dans les Métamorphoses d'Ovide. Donc, ça remonte à très, très loin. Donc, Pyram et Thisbé. Alors, Thisbé, c'est la femme et Pyram, c'est le mec. Hein. Donc, ils habitaient deux maisons voisines, donc en Grèce, mais leur père se détestait. Voilà, donc un peu la trame de Roméo et Juliette. Et donc, les deux amants se sont retrouvés un soir en cachette sous un mûrier blanc.
Oh là là,
c'est beau. Voilà.
Et le problème, c'est que Thisbé s'est retrouvée nez à nez avec une lionne à la gueule pleine de sang. Donc, elle a eu très peur, Thisbé. Donc, elle a fui. Et en fuyant, elle a perdu son foulard qui a été foulé par la lionne. Et donc, la lionne a recouvert de son sang le foulard. Et lorsque Pyram arrive pour le rendez-vous,
il croit qu'elle est morte.
Il voit le foulard, pense qu'elle a été bouffée par le lion. Donc, et puis, et elle se suicide.
Ah oui.
Et il se suicide.
Donc c'est bien l'histoire. Ah, par contre, c'est... Oui,
et revenu, Thisbé découvre le corps et se tue à son tour. Voilà. Et le mythe.
Ah oui, donc c'est un gros plagiat quand même.
Le mythe,
là.
C'est que les murs sont devenus rouges du sang de Pyram et Thisbé. Elle explique pourquoi les murs deviennent rouges. Voilà.
Okay.
À l'époque, il y avait des mouillés blancs, je ne savais pas. Mais bon, maintenant, ça explique que les murs passent du blanc au rouge et au noir. C'est un peu la passion de Pyram et Thisbé. Et puis, en cherchant bien, on voit qu'il y a eu d'autres adaptations de Roméo et Juliette. Ah, j'ai découvert que le Roi Lion 2 s'inspirait directement
de Roméo et
Juliette. Alors, je n'ai pas vu le Roi Lion 2.
Je l'ai vu, mais ça ne m'a pas...
Mais apparemment,
l'amour entre les deux lions.
La princesse Kiara, qui est la fille de Simba et Nala. Et en fait, il rencontre un jeune lionceau qui est un fils adoptif de Scar, qui est mort dans le premier roi.
Ah, d'accord. Donc, deux familles.
Et en fait, les deux gangs rivaux s'affrontent. Et puis, au milieu, il y a ces deux lions et lionnes là, qui s'aiment d'un tendre amour.
Il y a eu les comédies musicales aussi.
Oui.
Oui. Alors, bien sûr.
Damien Sargue.
Roméo et Juliette.
Roméo et Juliette.
Alors, je ne sais plus qui c'est qui l'avait fait, mais bon, c'était le sympa.
Presgurvitch.
Avec...
ça, c'est de la culture.
Damien Sargue et je ne sais plus qui.
C'est prononciation. Il arrive
plus
à dire.
C'était sympa, ça.
Eh bien, oui. C'était très bien. Ben, écoute, merci, Olivier. Ça va aller. Merci, c'est bon.
Mais est-ce qu'il est bien, le film ?
Le film est extraordinaire.
Bon,
c'est ça. Non, mais il est très, très bien. Franchement, c'est Steven Spielberg. Une mise en scène incroyable. Seul bémol, c'est la musique, je trouve. Enfin, à part
c'est dommage pour un film
une
musical.
Une ou deux chansons. Oui, oui, il y a des super chorés. La musique, on retient qu'une seule chanson, Maria. Et puis, par contre, je savais pas que America, c'était West Side Story. Donc ça, c'était bien, ça aussi. Okay. Alors, je chanterai pas, mais bon.
Oui, oui.
Voilà. Il y a des trucs quand même connus.
Voilà. Okay.
Bon, allez, c'est bon. Merci. Allez, il est l'heure de retrouver le Graal. Enfin, s'il n'est pas en grève.
Question de Jean-Luc M. Alors, tu ne fais pas la grève ?
Ah bon ? Il y a une grève ? Écoute, je sais pas si c'est ma place, mais on va refaire la scène. Bon, avant de défiler avec toi, Jean-Luc, peut-être que ça t'intéresse de savoir d'où vient le mot grève. Hein ? Non ? Tu t'en fous, tu veux juste te râler. Ok, ok. Enfin, mais quand même, c'est bien de savoir. Hein ? Oui, ok, tu veux râler. Oui. Bon, bah écoute, par devant, je te rejoins, place de l'Hôtel de Ville. Et tiens, justement, cette place s'appelait Place de Grève. C'était le lieu de rencontre des ouvriers qui cherchaient un emploi le long de la grève. Autrement dit, le bord de Seine, d'où le nom de grève. Voilà. Bon, écoute, je vous laisse, je vais manifester avec Jean-Luc. Hein. J'espère que c'est pas trop grève. Hein. Oui, je sais, je suis aussi en grève de l'humour.
C'était le Graal, à retrouver sur Instagram avec le compte Question Graal. Vous pouvez y poser vos questions. Pour terminer l'émission, on retrouve notre youtubeur Franck Coty qui, une nouvelle fois, traque les plagiats. Ce soir, c'est Ed Sheeran qui en prend pour son grade.
Pour la quatrième fois en l'espace de 2 ans, Ed Sheeran est à nouveau accusé de plagiat. En effet, Ed Sheeran connaît de nombreux déboires avec la justice concernant ses éventuels plagiats. On lui avait déjà reproché d'avoir plagié No Scrubs de TLC pour créer son fameux Shape of You. Ça, c'est No Scrubs. Et ça, c'est Shape. Et ça, c'est Shape of You.
Quand est-ce que vous pâchez ces choses ?
Oh, putain, j'y arriverai jamais. Shape of You. Le procès avait donné raison à TLC, No Scrubs, et Ed Sheeran a dû créditer les auteurs-compositeurs de cette chanson sur sa propre chanson. Ainsi, la chanson Shape of You, à chaque fois qu'elle est écoutée, streamée, téléchargée ou qu'elle est jouée en live, les auteurs-compositeurs de No Scrubs récupèrent un pourcentage. Et c'est aussi le cas pour la chanson de Ed Sheeran qui s'appelle Photograph. Là, ce sont les auteurs-compositeurs d'un gagnant de X Factor qui se sont insurgés en disant que le refrain de Photograph était à près de 70% similaire à leur chanson Amazing. Ça, c'est Photograph. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Et ça, c'est Amazing. How did you find me? Même procès, les auteurs-compositeurs de la chanson Amazing sont crédités sur la chanson de Ed Sheeran, photographe, en tant également qu'auteur-compositeur. Mais le dernier procès en date contre Ed Sheeran concerne cette fois sa chanson Thinking Out Loud. So honey now, take me into your loving arms. Et Ed Sheeran est accusé cette fois d'avoir plagié la chanson Let's Get It On de Marvin Gaye. Il réclame à Ed Sheeran et ses producteurs rien que 100 millions de dollars. Parce qu'ils estiment que Ed Sheeran a plagié Let's Get It On sur la mélodie, le rythme, les harmonies, les percussions, la ligne de basse, les chœurs, le tempo, la syncope et la boucle. Rien que ça. Le procès a normalement débuté fin d'année 2020 et est toujours en cours. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis.
C'était Franck Coty à retrouver sur sa chaîne éponyme et ses 446 000 abonnés. Wow, allez, il est temps maintenant de savoir qui gagne le CMA de la chronique sélectionnée par notre panel d'auditeurs. Chronique de la précédente émission, évidemment. Hein. Alors, pour rappel, c'est Florian qui a gagné à la dernière émission avec sa chronique sur le papier alu.
Il l'a couché.
Voilà. Manu, Sonia et Sandra ont également eu cet honneur lors des précédentes émissions. Olivier lui a 2 victoires à son actif avec Dune et les cinémas Angevin. Alors, est-ce que vous êtes prêts à trouver
qui
bah, écoutez, c'est parti.
Yo, de lait, et oh.
Alors, il y a 15 jours, nous avons parlé des blagues du solaire, des langues, du mug, des pantalons et du ukulélé et de Platon. Alors, d'une courte tête devant Olivier, nous avons cette fois Caroline avec son histoire des pantalons. Eh oui, elle rentre donc dans le cercle des élus. Donc, bravo à toi, Caro. On passe fort à toi. Elle est malade, hein, la pauvre petite Caro. Donc, on lui fait plein de bisous. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à Sonia. Merci à Mathias.
Merci, bonne soirée.
Merci à Florian. Merci Olivier. Merci.
Une belle fin d'année quand même. On se retrouve. Ouais,
tout à fait.
En 2022.
On va se retrouver effectivement l'année prochaine. On embrasse aussi nos autres chroniqueurs qui reviendront peut-être à la prochaine émission, donc l'année prochaine, hein, si tout va bien. Pauline, Cisco, Robin, Sandra, Caroline et Jérémy. Alors, on se retrouve ici même vendredi soir à 22h, ici, là, en studio, à l'antenne sur Radio G.
Je peux passer le nouvel an.
Oui, justement, c'est pour passer le nouvel an.
Ah bon?
Et on passe le nouvel an ensemble, en direct. On sera ici donc pour parler avec vous, avec le chat sur le site de Radio G. Alors, si vous êtes seul au nouvel an, eh bien, venez passer la nuit avec nous, directement, en direct à l'antenne, dès 22h, vendredi 31. Quant à CMA, eh bien, vous le retrouverez dans 15 jours, même heure et même endroit. Et d'ici là, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.